France Culture.
France Culture, le journal est présenté par Marie-Hélène Duvigneau.
Bonjour à tous, il est 9h. Poursuivre sur la voie de l'adhésion à l'Union européenne ou se rapprocher de la Russie. En élisant leurs députés aujourd'hui, les Moldaves décident de leur avenir. Les sanctions de l'ONU contre l'Iran de retour après 10 ans, elles ont été rétablies hier soir. La diplomatie est encore une option, assurent toutefois les États-Unis. Et puis, faire converger les luttes sociales et environnementales, c'est l'objectif des associations et syndicats qui relancent aujourd'hui les marches pour le climat. Une soixantaine de manifestations sont prévues un peu partout en France. Les Moldaves élisent donc ce dimanche leur futur parlement. L'enjeu de cette élection qui oppose le parti pro-européen de la présidente Maia Sandu au bloc des patriotes, aligné lui sur les narratifs du Kremlin, est avant tout géopolitique. Maria Gert Nicolescu, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes à Chișinău, la capitale moldave, pour suivre ces élections décisives pour l'avenir du pays.
Oui, les bureaux de vote ont ouvert à 7h heure locale. Pour l'instant, tout se déroule dans le calme. Aujourd'hui, les Moldaves élisent avant tout l'orientation géopolitique de leur pays. Deux principales formations s'affrontent. D'un côté, le parti Action et Solidarité de la présidente pro-européenne Maia Sandu, parti qui détient actuellement la majorité absolue, et le bloc des Patriotes, un bloc de trois partis alignés sur les valeurs et les narratifs du Kremlin. La Moldavie a déjà débuté les négociations d'adhésion à l'Union européenne, mais si Maia Sandu perd la majorité parlementaire, eh bien cette orientation occidentale pourrait être remise en question. Si on en croit les derniers sondages, il se pourrait qu'aucun parti n'obtienne la majorité absolue. Et dans ce cas, eh bien des alliances devront être négociées. Le camp pro-européen compte en tout cas sur le vote de la diaspora, qui représente environ 20% de l'électorat moldave. Ce dimanche, les autorités s'attendent à voir des actions de déstabilisation russe dans les bureaux de vote, notamment à l'étranger, pour décrédibiliser le processus électoral. La Russie qui a mené une campagne massive d'ingérence pour influencer le résultat de ces élections. Désinformation, corruption électorale ou encore cyberattaque. Selon la police, ces actions auraient coûté à Moscou plusieurs centaines de millions d'euros.
Maria Gert Nicolescu à Chișinău, la capitale moldave. Les bureaux de vote sont ouverts donc depuis 3h. Ils fermeront ce soir à 20h, heure française. Des élections législatives suivies de très près par l'Union européenne. La Moldavie, frontalière de l'Ukraine, est depuis plusieurs années un des théâtres de la guerre hybride menée par Moscou. Ingérence électorale, on l'a entendu, diffusion de fausses informations via Telegram. Un enjeu majeur pour l'Europe, Fabien Cazot.
C'est d'abord une confirmation qu'espèrent les Européens à l'issue des élections législatives de ce dimanche, la confirmation du cap européen que la Moldavie a déjà commencé à prendre. Et ce souligne l'eurodéputée Nathalie Loiseau, qui préside la commission bouclier démocratique au Parlement européen, malgré les intimidations de la Russie.
La Moldavie a montré très clairement l'année dernière, en réélisant Maia Sandu comme présidente et en votant en faveur d'un référendum qui inscrivait la trajectoire européenne de la Moldavie dans la Constitution, qu'elle veut se tourner vers l'Union européenne. Simplement, Vladimir Poutine, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Tout y passe, de la corruption, des achats de voix, pour essayer de changer le résultat de l'élection de dimanche.
Cette élection sera donc pour l'Union européenne l'occasion de tester l'efficacité de son soutien aux pays soumis aux ingérences russes, sur fond de guerre hybride et d'incidents aériens de plus en plus préoccupants à l'est de l'Europe.
Si nous ne sommes pas capables d'aider les Moldaves à choisir leur destin, sachant que la Moldavie est un des plus petits pays d'Europe, il faudra arrêter de parler d'Europe puissante. Il faudra avouer que l'Europe est impuissante.
En cas de victoire du camp pro-européen, les négociations d'adhésion à l'Union pourraient être accélérées en vue d'une intégration de la Moldavie avant 2030.
Fabien Cazot à Bruxelles. Ce matin, l'Ukraine, voisine de la Moldavie, affirme que la Russie a lancé dans la nuit une nouvelle attaque massive. Kiev parle de centaines de drones et missiles qui ont fait au moins 4 morts dans la capitale. France Culture, 9h04. Depuis hier soir, l'Iran est de nouveau soumis aux sanctions internationales imposées par les Nations Unies. Conséquence de l'échec des négociations sur son programme nucléaire. Des sanctions qui vont peser sur de nombreux secteurs de l'économie iranienne, même si Européens et Américains appellent à reprendre le chemin de la diplomatie. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a ainsi dès hier soir demandé à Téhéran d'accepter des discussions directes avec Washington. Isabelle Labéry.
L'économie iranienne est déjà très affectée par les sanctions américaines, mais ces nouvelles mesures vont accentuer la pression. Interdiction de vendre ou de transférer des armes à Téhéran, restriction des activités bancaires et financières qui pourraient aider le pays à poursuivre ses programmes nucléaires ou balistiques, interdiction d'importer ou d'exporter biens et technologies liés à ces programmes. Enfin, les individus impliqués dans le développement des armes atomiques ne pourront plus utiliser leurs avoirs placés à l'étranger. Jusqu'ici, la Chine et la Russie avaient contourner les sanctions américaines et continuer leurs échanges commerciaux avec l'Iran. Cette fois, elles ne pourront pas s'exempter de mesures qui relèvent du droit international et sont juridiquement obligatoires. Pékin et Moscou devraient toutefois tout faire pour ralentir leur mise en œuvre. Ce sera d'autant plus facile que le procédé implique une transposition des décisions de l'ONU dans le droit national, chaque État devant adopter ses propres lois.
Isabelle Labéry aux États-Unis. Les États-Unis où les anti-vax se sont mobilisés hier, ils ont manifesté dans quelques dizaines de villes. Le mouvement, quoique minoritaire, gagne en influence. La Floride devrait ainsi devenir le premier État à suspendre la vaccination obligatoire des écoliers. Une défiance vis-à-vis des vaccins encouragée par le ministre de la Santé lui-même, Robert Kennedy Jr. À New York, Loïc Loury.
Une petite esplanade en face des locaux du géant pharmaceutique Pfizer. Quelques dizaines de personnes y hurlaient hier leur reconnaissance à l'égard de RFK. Un mot revenant sans cesse dans la bouche de ses supporters.
Vaccines.
Mandatory vaccines.
Les vaccins, déplore Alexandra Bauer, responsable d'une association de mères conservatrices que l'on injecte à nos enfants.
On veut savoir ce qu'il y a dans ces vaccins et on ne veut pas qu'on nous oblige à les prendre. Moi j'en ai 8. Maintenant, c'est 96. C'est trop et beaucoup d'enfants souffrent.
Ici, on évoque à peine l'obésité galopante ou les coupes dans les budgets de la santé, mais on relaye les théories non prouvées du gouvernement. Tom porte un t-shirt estampillé non vacciné. J'ai des amis qui ont des enfants sévèrement autistes et l'histoire est toujours la même. Ces enfants allaient bien, puis ils se sont fait vacciner et ils changeaient pour toujours. Ça détruit des familles. Un mouvement qui avance masqué derrière la bannière Make America Healthy Again, rendre sa santé à l'Amérique, et qui sème sur un terreau fertile un quart des Américains à peine affirmant avoir confiance dans leurs institutions médicales.
Donald Trump ordonne le déploiement de l'armée à Portland et autorise le recours à la force maximale. La ville démocrate connaît depuis plusieurs mois des manifestations contre la police de l'immigration. L'actualité en France à présent est le retour aujourd'hui des marches pour le climat avec des mots d'ordre élargis à la justice et aux libertés. Désormais baptisées Marche des résistances, elles sont attendues dans une soixantaine de villes. À quelques semaines de la COP30, elles entendent dénoncer les régressions environnementales et sociales et remettre la justice climatique et sociale au cœur de l'agenda politique. Véronique Robérotte.
La marche des résistances entend remettre au goût du jour les marches climat en vogue il y a quelques années, mais tout en élargissant les revendications, explique Gabriel Mazzolini des Amis de la Terre.
La réalité du monde a changé, le contexte politique est beaucoup plus tendu. On observe une montée de l'extrême droite et avec la montée de l'extrême droite et ses victoires, aussi une montée du climato-scepticisme. Quand on parle de la question écologique, elles sont sociales, elles relèvent de la question de la santé, comme le témoigne la mobilisation sur la loi du plomb. Ce sont nos vies qui sont en jeu. Et ça, c'est la clé de notre message depuis le départ. Quand on dit « changeons le système par le climat », c'est pas parce qu'on a une envie perverse de vouloir taxer les riches ou de vouloir revoir tout le système économique. C'est une nécessité pour que nos vies humaines puissent poursuivre sur cette planète.
La marche des résistances entend aussi défendre une écologie plus populaire. Sana Saïtouli est la cofondatrice de Banlieue Climat. Elle est pour la première fois dans un cortège.
Nous, notre combat et ce qu'on dit, c'est les premiers écologistes, ce sont nos parents. Vivre dans nos quartiers avec la manière dans laquelle on a vécu sur les questions de sobriété et toute forme d'inégalité sociale qu'on a pu vivre au quotidien de manière très intuitive et innée, on a développé ce qu'on appelle les éco-gestes, l'éco-anxiété, tout ça. Mais finalement, on n'avait pas forcément les codes du milieu un peu écologique, etc. Et on a décidé aujourd'hui avec Banlieue Climat de bousculer les choses. Moi, ma place en tant que femme militante, maman engagée, aujourd'hui je parle à beaucoup de femmes dans les quartiers, beaucoup de mamans, ça embarque et en fait cette complémentarité un peu des profils, des figures nous permet aujourd'hui d'embarquer des jeunes.
La marche des résistances affichera aussi sa solidarité avec Gaza.
Et nous en reparlerons dans le journal de midi et demi avec notre invitée Soraya Fethi de l'ONG climatique 350.org. Autre manifestation prévue en France ce dimanche, journée internationale de défense de l'IVG, celle pour le droit à l'avortement. Inscrit dans la Constitution française, il n'est pas toujours garanti sur l'ensemble du territoire en raison d'importantes inégalités d'accès. Nicolas Sarkozy choisit le journal du dimanche, l'hebdomadaire du groupe Bolloré, pour sa première interview depuis sa condamnation. Il affirme qu'il n'espère en aucun cas être gracié. Pour être gracié, dit-il, il faut accepter sa peine et donc reconnaître sa culpabilité, ce qu'il ne fera jamais. Le temps, aujourd'hui nuageux dans l'ouest et au sud, belles éclaircies au nord et ensoleillées à l'est. Les températures au meilleur de la journée, 19 à 20 degrés sur la moitié nord, 21 à 23 au sud, jusqu'à 27 en Corse.